En regardant en arrière, un an ou deux après, disons, oui, ça a été un bon deal pour nous. Mais à ce moment-là, c'est de l'inventaire qui aurait facilement pu valoir zéro pour nous autres. Ce gros client-là, il s'est commencé à s'impatienter avec nous, puis tu sais, il était presque prêt à passer à d'autres choses. Fait qu'il y avait énormément de risques liés de notre côté. Tu sais, honnêtement, le business case n'était pas excellent pour nous autres. Il y avait un grand risque, quelque chose que je sais pas si je referais aujourd'hui.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 47e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer la performance de vos campagnes. L'industrie des maisons intelligentes est un des segments de marché qui a accumulé le plus de croissance au cours des dernières années. Selon la plateforme de récolte de données numéro 1 au monde, Statista, le marché des smart homes, mais spécifiquement celui de l'éclairage intelligent, risque de tripler d'ici 2025. On parle donc d'une industrie où les parts de marché seront importantes à aller chercher d'ici les 5 prochaines années et mon invité du jour est plus que prêt à aller s'imposer comme un leader dans ce domaine. Joey Catry, président et cofondateur de l'entreprise Dolls Lighting, a pris le temps de s'asseoir avec nous aujourd'hui afin de discuter éclairage intelligent, comment développer un réseau de distribution en B2B, les étapes qu'il a dû franchir pour s'implanter aux États-Unis, l'impact de la COVID sur son entrepôt et plusieurs autres sujets tout autant fascinants. Le podcast est parfait pour les gens qui œuvrent en B2B. Sans plus attendre, ma discussion avec Joey Catry. Joey Catry, tu es président et fondateur de Dolls Lighting, une entreprise spécialisée dans l'éclairage résidentiel. En affaires depuis 2009, vous avez connu une croissance soutenue au cours de la dernière décennie, en étant maintenant plus de 50 dans l'organisation. Joey Catry, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci, ça fait plaisir d'être ici.
Joey, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, peux-tu nous ramener en 2009 puis nous expliquer un petit peu la genèse, la fondation de votre organisation?
Oui, absolument. Bon, ben premièrement, 2009, pour moi, ça a été une grande année. Ça a été l'année que j'ai eu mon premier fils. J'en ai 3 aujourd'hui. Ça a été l'année que je me suis marié. Puis ça a été aussi l'année qu'on a fondé Dolls Lighting. En fait, je suis cofondateur de Dolls Lighting. C'est une entreprise que j'ai cofondée avec mon beau-frère, Sean. Avant d'avoir fondé l'entreprise, les deux, on a travaillé pour une entreprise familiale. En fait, une entreprise que j'avais cofondée avec mes parents dans le début des années 2000, qui avait grandi rapidement, là, qui avait intégré plusieurs autres investisseurs au fil des années, puis qui avait grandi rapidement, surtout dans un mode acquisition. En 2007-2008, cette entreprise-là a passé des temps difficiles, surtout suite à la crise économique qu'il y a eu aux États-Unis. Ça nous a fait mal. Et puis, Sean et moi, à ce temps-là, on venait de développer, on était en train de développer une nouvelle gamme de produits, puis un nouveau programme qu'on venait de vendre à une grande chaîne de quincaillerie. Et puis là, la compagnie se retrouvait qu'il n'y avait plus les moyens financiers de soutenir ce nouveau lancement-là. Puis nous autres, on y croyait vraiment, vraiment. Fait qu'on a regardé toutes les façons de laquelle qu'on pouvait aller de l'avant. Puis finalement, on a fait une proposition de racheter certains actifs de la compagnie pour partir à notre propre compte et puis pour fournir là, cette nouvelle gamme de produits-là, ce nouveau programme-là qu'on avait développé. C'était un plan, honnêtement, quand je regarde en arrière, très risqué, hyper ambitieux, très entrepreneur, si tu veux. T'sais, les deux, on a réhypothéqué notre maison, on a pris les quelques épargnes qu'on avait, puis on est vraiment allé all-in. Puis comme je te disais, dans la même année là que j'allais avoir mon premier fils et puis que je me mariais et tout ça. Fait vraiment une grosse année en 2009. te dirais aussi, puis pas pour éterniser la réponse, mais je te dirais aussi que dans mes anciennes entreprises, j'ai toujours été entrepreneur, je te dirais là à la base, puis pas juste de la bonne façon, mais d'une façon que, tu sais, je suis rêveur, j'aime ça créer, j'aime ça vendre et promouvoir. Fait que j'ai toujours eu ça dans tous les projets dans lesquels j'ai fait partie dans le passé. Mais il m'a tout le temps manqué, tu sais, de rigueur et puis de discipline. Je voulais toujours y aller trop vite, on dirait, OK? Et puis, je t'invite à passer au prochain projet aussi. Puis quand on a cofondé Dalz en 2009, puis j'avais environ 30 ans, fait que c'était comme un point tournant, si on veut, dans ma vie. Puis je me suis dit, là, cette fois-ci, là, je veux vraiment réussir. Je crois en notre projet. J'ai encore la même passion que j'ai toujours eue. Mais cette fois-ci, je vais donner beaucoup plus de discipline, beaucoup plus de rigueur, puis vraiment se concentrer sur l'excellence opérationnelle de l'entreprise. Un point sur lequel mon partenaire Sean, mon beau-frère, on était très alignés là sur cette vision là. Fait que c'est un peu comme ça qu'on est parti en 2009. En même temps, je te dirais que dans notre industrie à ce temps-là, c'était un point tournant de l'industrie où est-ce que les produits au Dell commençaient à être comme adoptés par le marché. C'était encore très tôt dans ça. Je veux dire, l'éclairage au Dell, ça fait longtemps que ça existe, mais ça a tout le temps été un produit beaucoup plus de spécialité. Dans ces années-là, 2009-2010, le produit s'en venait apte à être commercialisé à monsieur, madame, tout le monde. Fait qu'il y a eu une grosse opportunité pour nous autres d'y aller comme all-in dans les produits Dell. On était jeunes, l'entreprise était jeune, on n'avait pas grand-chose à perdre. Fait qu'on a fait ce move-là peut-être une couple d'années avant le reste de l'industrie. Fait que ça a été vraiment un beau catalyseur de croissance, je te dirais.
Puis je voudrais revenir au point que tu as mentionné un peu plus tôt, que je trouve fascinant. Tu as vu une opportunité de racheter des actifs d'une organisation existante. Peux-tu te parler un peu, c'était quoi ces actifs-là? Puis où voyais-tu la valeur de ces actifs dans une optique, j'imagine, subséquente de commercialisation?
Ouais. En fait, je te dirais que la grande partie des actifs, c'était de l'inventaire. OK? C'était de l'inventaire et puis c'était un programme, comme je te mentionnais, qu'on allait vendre à une grande chaîne de quincaillerie. Et puis, fait que pour vendre, quand tu lances un nouveau programme dans une grande chaîne comme ça, faut bâtir énormément d'inventaire, surtout dans les premières phases pour pouvoir fournir les premières commandes, qu'est-ce qu'on appelle le load-in. Okay? Puis en fait, la compagnie était rendue comme à 50% de l'inventaire qu'elle avait besoin pour fournir la première commande. Elle avait déjà dépensé énormément d'argent pour commencer à bâtir cet inventaire-là. Mais après ça, a commencé, tu sais, la crise économique est arrivée assez rapidement et puis des investissements sur lesquels on comptait se sont pas matérialisés. La compagnie avait plus d'argent pour bâtir l'inventaire au complet. Fait qu'il était rendu à 50% d'inventaire, mais qui valait presque rien parce que le client, lui, il voulait un beau nouveau programme complet, il voulait pas un 50% de l'inventaire. Donc, nous autres, en fait, l'offre qu'on a faite, c'est qu'on a dit, on va racheter le 50% d'inventaire que vous avez déjà, et puis nous autres, on va injecter les fonds nécessaires pour aller chercher le prochain 50% de l'inventaire pour pouvoir livrer la commande au client. Fait que vraiment, c'est sur ça que la négociation s'est faite. À ce point-là, puis écoute, ça fait quand même 11 ans, fait que je me rappelle pas exactement de tous les détails, mais il y avait des banques d'impliquées, puis des banques aussi, tu sais, qui avaient une certaine sécurité sur l'inventaire. Donc, il a fallu négocier avec eux, surtout pour aller chercher ça. Fait que ça s'est joué comme ça.
Puis dans une optique comme ça d'achat d'inventaire, où est-ce que le parti avec qui tu fais la négociation est pas nécessairement dans un rapport de force à cause qu'ils ont certains enjeux économiques, un peu comme tu le dis, est-ce que ça vous a permis d'aller chercher, désolé de l'anglicisme, là, mais un bon deal?
Je te dirais pas nécessairement. Je te dirais que ça s'est joué beaucoup dans le timing. Le timing était bon pour nous. Il y avait énormément de risques. Fait que ça a été, en regardant en arrière, un an ou deux après, disons, oui, ça a été un bon deal pour nous. Mais à ce moment-là, c'est de l'inventaire qui aurait facilement pu valoir zéro pour nous autres. Ce gros client-là, il s'est commencé à s'impatienter avec nous, puis tu sais, il était presque prêt à passer à d'autres choses. Fait qu'il y avait énormément de risques liés de notre côté. Et puis, tu sais, honnêtement, le business case n'était pas excellent pour nous autres. Il y avait un grand risque, quelque chose que je sais pas si je referais aujourd'hui. Mais on y croyait vraiment. Et puis, fait que quand on regarde en arrière, oui, le timing a été excellent. Je pense qu'on a bien exécuté sur ça. mais je te dirais que c'était pas nécessairement un bon deal à ce temps-là. Dans un fait, tu sais, qu'il y avait d'autres gens qui regardaient ces actifs-là, mais il y a personne d'autre qui était prêt à faire un offre pour la racheter là, au niveau que nous, on l'a fait.
Intéressant, très intéressant. Joey, personnellement, moi, avec l'agence que je dirige, G7 Media, les clients avec qui on va travailler vont surtout vendre directement aux consommateurs. Donc, on s'est fait du moins une expertise, une connaissance davantage là-dessus, mais j'ai l'impression, vous, de votre côté, avec Dazz Lighting, vous avez beaucoup de distributeurs qui vont vous aider pour faire la commercialisation de certains produits. Peux-tu nous expliquer aujourd'hui comment vous avez réussi à bâtir ce réseau de distributeurs-là qui est très, très vaste, que je voyais sur votre site web? Là, il y a beaucoup de gens qui ont l'air de distribuer vos produits.
C'est une bonne question. Puis c'est pour nous, du côté de la vente, c'est vraiment notre réseau de distribution, c'est le nerf de la guerre. Et puis, bon, premièrement, je te dirais beaucoup de cogner à la porte. Puis fait que, il y a eu beaucoup là, de travail de fait dans les tranchées par l'équipe de vente. Je te dirais qu'aujourd'hui, notre réseau de distribution, je pourrais vraiment le résumer à des salles de montres d'éclairage, fait que des lighting showrooms, des distributeurs électriques, fait que des gens qui vendent vraiment à des grands clients, tu sais, institutionnels, industriels, et puis des entrepreneurs électriciens. Fait que ça, c'est les distributeurs électriques. Puis après ça, aussi tout ce qui est quincaillerie en grande surface, les magasins de grande surface, si je peux dire. Fait que je pourrais dire que pour chacun, premièrement pour la grande surface, c'est toutes des relations qu'on a bâties du côté corporatif. Ça prend du temps, puis comme je te dis, il y a des processus quand même assez pointus pour essayer de rentrer dans ces entreprises-là. Par après, par notre autre réseau de distribution plutôt indépendant, si je pourrais le dire, c'est passé à travers beaucoup un réseau de vente, puis un réseau de vente avec des agents manufacturiers indépendants. Fait qu'est-ce que je veux dire, c'est que dans notre industrie, beaucoup de la vente qui est faite je prends Vancouver, par exemple. Fait qu'à Vancouver, on a un agent de vente qui est pas un employé direct de Dallas, c'est quelqu'un qu'on paye à commission, que lui a aussi d'autres lignes de produits, en théorie, qui ne devraient pas compétitionner avec notre entreprise. Fait que disons que nous autres, on a de l'éclairage intérieur, peut-être que lui a une autre gamme qui vend de l'éclairage extérieur, et puis fait que les agents peuvent avoir plusieurs gammes, fait qu'ils offrent un beau package. Puis eux ont déjà le réseau de distribution de leur territoire, ils saisissent bien quand même ce réseau-là. Fait que de s'aligner avec ces agents-là, ça a déjà été c'est une grande partie de la stratégie. Par après, jumelé avec ces agents-là, on va visiter les nouveaux clients potentiels, les nouveaux distributeurs potentiels. Et puis, je te dirais que la façon qu'on doit vraiment se démarquer, c'est avec le produit. D'avoir un produit innovateur, quelque chose de différent qu'ils n'ont pas aujourd'hui, qui leur donne à eux un avantage compétitif sur leurs clients, et puis qu'on leur donne une solution aussi de vendre ces produits-là. Donc, ça peut être des présentoirs en magasin, des catalogues, vraiment tout un kit intégré ensemble qui peuvent leur permettre de vendre ces produits-là facilement. Aussi, je pense d'avoir une expertise dans les produits qu'on vend, pas d'essayer de vendre un petit peu de tout à tout le monde. Fait que d'avoir une expertise dans les produits, d'avoir un produit novateur, c'est la meilleure façon de rentrer. Je te dirais qu'après ça, le service, c'est un élément absolument essentiel de pouvoir livrer à temps, toujours, des commandes complètes, un bon produit de qualité. C'est un petit peu plus difficile de pré-vendre le service, en voulant dire que c'est une belle façon de fidéliser nos clients une fois qu'on les a. Mais pour rentrer là, je te dirais vraiment que le produit, c'est ça qui fait toute la différence. Le réseau de vente d'agents manufacturiers, après ça, le produit, et puis je pense que c'est une bonne partie de notre recette. Mais il y a beaucoup, tu sais, après 11 ans, je te dirais qu'il y a beaucoup de travail, tu sais, d'efforts qui sont faits de jour en jour pour aller ouvrir ces nouveaux distributeurs-là. On se fait beaucoup dire non, surtout dans des marchés où est-ce qu'on est moins connu. Fait que c'est pas un travail facile. Puis je pense que quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis ça serait quand même difficile de rebâtir ça à partir de zéro. Fait que il y a définitivement du legacy dans ça.
J'aimerais revenir au point que tu as mentionné, agent manufacturier. Donc juste pour être certain de bien comprendre tout ça, ces agents-là vont travailler directement avec les distributeurs. C'est eux qui vont, vous allez établir une relation avec eux pour leur dire votre dernière ligne de produits, et eux vont s'occuper d'aller s'assurer que ces distributeurs-là soient intéressés par ces lignes de produits, mais vous sortez un petit peu de cette relation-là avec le distributeur. C'est vraiment le in-between.
Oui, ben en fait, non, c'est un effort combiné. Surtout, c'est rentrer les agents nous aident souvent à créer la relation, OK? Mais je te dirais que souvent, pour les premières poussées, ont besoin de notre aide. Fait que nous autres, on a comme une équipe de vente. On a des gérants de vente que, bon, avant la COVID, qui voyageaient beaucoup, tu sais, qui allaient, comme je te dis, à Vancouver, à Chicago, à Los Angeles, puis qui travaillent avec ces agents-là. Là, ils vont faire, tu sais, la tournée. Disons, on va passer 3 jours avec, puis ils vont aller voir, bon, une dizaine de distributeurs. Fait qu'ils vont, on assiste vraiment à faire la première poussée. C'est nous autres, les experts sur nos produits. Fait que les gens aiment vraiment voir la compagnie en tant que telle. Ces agents-là, par après, nous aident vraiment à maintenir la relation day-to-day avec ces clients-là. C'est eux qui vont les visiter à chaque semaine. C'est eux autres qui s'occupent là, du day-to-day. Mais je te dirais que il y a définitivement... Notre participation est aussi très importante.
C'est certain. Et puis, comment vous êtes capable de garder... Ben, tu le dis un petit peu, mais ça serait peut-être intéressant si tu as des anecdotes ou un processus à nous mentionner. Parce que ces agents-là, faut que tu les gardes heureux. Et souvent, dans la manière de les garder heureux, c'est de s'assurer que eux, éventuellement, fassent de l'argent. Donc, le distributeur veut continuer à acheter ces produits-là. Est-ce que vous avez une manière, bon, tu le dis, des fois, quand c'est un nouveau agent, un nouvel agent, vous allez vous déplacer avec lui, vous allez faire des présentations, vous allez l'éduquer. Est-ce que vous avez quand même une manière, après, de garder cette relation-là active en leur faisant des appels sur une certaine base hebdomadaire, en leur faisant des présentations sur les nouveaux produits, où est-ce que ça en va l'entreprise également?
Oui, absolument. Je te dirais, tu sais, en première partie, puis moi, je suis un vendeur à la base, OK? En vente, tu sais, c'est les agents de vente. Je pense que tu veux vendre qu'est-ce qui est facile à vendre, OK? Fait que si quelque chose est compliqué, puis que tu as des problèmes avec, et puis tu sais que les gens, généralement, sont pas intéressés, bon, ils vont le tasser de côté, puis ils vont mettre en première partie qu'est-ce qui est le plus facile à vendre. Fait que je pense que la première chose qu'on essaie de faire, c'est de rendre le processus facile pour eux. En même temps, faut être, quand ils vont visiter des nouveaux clients ou quand ils vont visiter des clients, la première chose qu'un client va demander, c'est « what's new? » OK? Les gens veulent toujours savoir c'est quoi la prochaine ligne de produit qui s'en vient, la dernière tendance et puis tout ça. Fait que je pense que, encore une fois, de revenir au point d'être novateur, c'est très, très important. Fait que toujours leur donner du matériel pour aller visiter ces clients-là. Parce que si tu retournes visiter le client 6 fois avec le même produit, ben, à un moment donné, il te reste plus grand-chose à quoi parler. Fait que je pense que d'avoir définitivement toujours de la nouveauté, d'avoir un produit sur lequel tu as de l'expertise qui est facile à vendre. Après ça, évidemment, dans la maintenance de la relation, le service est très, très important, quelque chose sur lequel on se base beaucoup, beaucoup. Puis aussi de bien s'occuper de nos agents. Fait qu'on les paye à commission. Je te dis, pour moi, c'est les premiers chèques que je signe à chaque mois. Puis on tu sais, dans des temps faciles et difficiles, depuis qu'on est parti d'Ars en 2009, tu sais, je me suis fait une promesse qu'on serait jamais en arrière sur ces paiements-là. Fait que bien s'occuper d'eux autres, les valoriser, bien les payer, toujours à temps, leur offrir un bon service, un produit qui est facile à vendre. Et puis définitivement, encore une fois, je pense que le nerf de la guerre, c'est sur le nouveau produit, l'innovation.
C'est ça que tu veux. Tu veux toujours arriver avec un... Ben, je me mets à leur place. Tu veux toujours arriver avec un nouveau produit, une nouvelle idée que tu es capable de discuter avec ton client. Puis parlant de nouveauté, vous êtes dans une industrie qui est assez fascinante. Tout ce qui est maison intelligente, smart home, c'est en train d'exploser littéralement. Puis j'avais fait des petites recherches avant notre enregistrement aujourd'hui. Puis je suis allé sur le site Statista, qui est vraiment la plateforme numéro 1 au monde en ce qui concerne le data. Et Statista révélait que le marché des smart homes, des maisons intelligentes, puis spécifiquement celui concernant l'éclairage résidentiel, il allait tripler. Il allait tripler au Canada d'ici 2025. Donc, une belle croissance est au rendez-vous. Moi, je voudrais savoir, comment Dahls Lighting se prépare face à cette croissance-là? C'est quoi votre stratégie présentement pour aller capturer le plus de parts de marché possible avec ce marché émergent?
Ouais, c'est une excellente question, Antoine. Et puis, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Je te parlais tantôt quand on a commencé, là, comment on a commencé l'entreprise en 2009, puis quand on est allé all-in dans l'éclairage Dell une couple d'années avant tout le monde. Moi, j'ai définitivement la même vision avec l'éclairage intelligent, OK? Et puis, c'est pas une réponse facile parce que il y a plusieurs enjeux, OK? Premièrement, je vais dire que nous autres, ça fait depuis 2017 qu'on vend des produits intelligents, OK? Aujourd'hui, ça représente environ 30% de nos ventes. On vient de lancer une nouvelle plateforme cette année, DALS Connect, en laquelle je crois énormément, puis je pense que ça va être un énorme catalyseur pour notre croissance future. Pour moi, dans mon rôle, je suis un cheerleader à l'interne pour cette nouvelle technologie-là. Des fois, la nouveauté, ça fait peur à certaines personnes, fait que je sens que c'est définitivement de pousser de mon côté là, la nouvelle technologie, c'est un point très important de chez moi. Mais je te dirais que dans l'éclairage intelligent, c'est plus large que juste l'éclairage. Qu'est-ce qui est important de saisir aujourd'hui, c'est quoi les plateformes qui vont gagner le smart home, OK? Et puis, je te dirais que si on retourne en arrière 3-4 ans, tu avais beaucoup de plateformes qui essaient de développer un hub du type Zigbee, fait ou Z-Wave. Je veux pas tomber trop dans le technique, mais c'était des genres de produits qui allaient être jumelés à travers des hubs. Après ça, tu as vu des technologies qui étaient dans le Bluetooth, OK, où est-ce que tu pouvais contrôler tes appareils intelligents à travers du Bluetooth. Et puis à chaque moment, il y a eu comme une petite poussée derrière ça, que bon, ça va être le futur, si on veut. Mais moi, j'ai cru beaucoup tôt dans la technologie du Wi-Fi, OK, pour l'éclairage intelligent, surtout parce qu'il n'y avait pas de hub de requis. Tu pouvais installer ton appareil puis lui parler directement à partir de ton téléphone intelligent sans hub. Et puis, dans la dernière année ou deux, on voit que, en effet, la technologie Wi-Fi prend de plus en plus d'ampleur dans l'éclairage smart. Fait qu'il a fallu qu'on regarde un petit peu la tendance dessinée avant d'y aller, comme je répète encore mon mot, all-in sur une technologie. Si on aurait décidé d'y aller all-in, disons, il y a 2 ou 3 ans, on aurait peut-être choisi une mauvaise plateforme technologique. Aujourd'hui, je te dirais qu'avec le Wi-Fi, puis peut-être aussi avec une évolution future là, qui va jumeler d'autres plateformes, d'autres technologies ensemble, par exemple de jumeler le Wi-Fi, le Bluetooth, de jumeler le Wi-Fi, le Zigbee peut-être. Mais je te dirais que on a la bonne base technologique sur laquelle on a lancé notre plateforme DALS Connect pour y aller de l'avant. Après ça, je te dirais, tu sais, vraiment d'être capable de bien se relier aux leaders, que ce soit Amazon Alexa ou Google Home, d'être capable d'être compatible avec ces logiciels-là, c'est quelque chose, ou ces plateformes-là, c'est quelque chose qui est très, très important. Et puis qu'on a accompli, évidemment. Et puis, je te dirais encore, pour revenir à sur la distribution, de bien être capable de prendre du leadership dans nos canaux de distribution, d'être le premier à offrir une solution complète d'éclairage intelligent, c'est très important. Puis on est là aujourd'hui. Donc, comment qu'on va capitaliser puis garder le leadership dans ce marché-là, je te dirais que ça va passer à travers continuer à innover des différents produits, donc une gamme complète de produits pour sa maison, disons, qu'on peut avoir en éclairage intelligent, d'avoir une plateforme qui est facile à installer des nouveaux produits, ajouter des nouveaux produits, créer des groupes, des scènes et puis tout ça, d'avoir les bons prix, évidemment d'être compétitif, puis être capable de scaler rapidement. Et je pense qu'on est bien aligné sur tous ces points-là. Donc je pense que ça va faire partie de notre croissance future. Là. Ça va être le point principal de notre croissance future, j'y crois.
Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoute. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agang@j7media.com, donc agang@j7media.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. Parlons-en de cette plateforme-là. J'ai fait des tests un peu. Je voulais aller voir, vous avez des petites vidéos how-to qui montrent comment cette plateforme-là fonctionne. Parle-moi un petit peu de ça. Donc, en gros, la personne peut télécharger littéralement la plateforme. Et par la suite, qu'est-ce qu'elle peut contrôler et qu'est-ce qu'elle ne peut pas contrôler avec la plateforme que vous êtes en train de bâtir?
En fait, il y a beaucoup de choses, de différentes choses que tu peux faire. Je te dirais, à la base, tu peux, tu sais, allumer, éteindre tes lumières à partir de ton téléphone intelligent, que tu sois local à la maison ou à l'extérieur. Tu peux le faire aussi, si tu peux le faire pour chacun de tes appareils individuels, ou tu peux créer des groupes aussi. Fait que tu peux tout regrouper, disons, tes appareils d'éclairage dans ton salon, dire OK, allume ou ferme le salon. Ou tu peux faire la même chose évidemment avec Alexa, dire bon, tu ouvre les lumières du salon, ferme les lumières du salon. Tu peux aussi graduer ton éclairage, fait dimmer, OK? Fait que de dire bon, OK, je le veux mon éclairage à 50%, je le veux à 75%, je le veux à 10%. Bon, là, c'est toutes des choses qu'on peut faire jusqu'à maintenant aussi avec d'autres, tu sais, des switches intelligentes et puis des choses comme ça. Où est-ce que ça devient vraiment intéressant? C'est que nous autres, tous nos produits peuvent aussi changer de couleur d'éclairage. Fait que tu peux avoir une variété complète d'éclairage, que ça soit du blanc plutôt froid, fait qu'avec une lumière que tu aurais plus tendance à voir dans des bureaux, que tu utilises quand tu as besoin d'être productif, peut-être quand les enfants font les devoirs, quand tu fais le ménage, tu sais, quand je travaille dans mon bureau. Ou tu peux avoir aussi de l'éclairage blanc chaud, OK? Fait qu'on parle souvent en degrés Kelvin en éclairage, fait que tu sais, du blanc chaud, ça serait comme, disons, 2700 degrés Kelvin. Puis du blanc froid, notre application va jusqu'à 6500. Fait que on peut contrôler chacune de nos lumières ou chacune de nos groupes pour ajuster cette lumière-là. Puis en même temps, tous nos produits peuvent aussi, tu peux aussi mettre des couleurs vives. Fait que si tu veux, bon, du rouge ou du bleu ou du mauve ou quelque chose comme ça dans une pièce, tu fais un party ou tu regardes une game de hockey, puis tu veux allumer tes lumières à la couleur des Canadiens ou quelque chose comme ça, tu peux faire des choses le fun aussi avec ça. Fait que vraiment illimité. Tu peux mettre de la minuterie dossier, fait que décider à quelle heure tes lumières vont s'allumer, à quelle heure qu'ils vont se fermer, quelles lumières vont allumer, quelles lumières vont fermer, à quelle intensité qu'ils vont s'allumer, à quelle intensité qu'ils vont se fermer. Et puis ça continue, là. Tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Évidemment, dans les plateformes Alexa, par exemple, tu peux créer des routines et puis l'intégrer avec d'autres produits aussi. Fait que disons que tu as des stores intelligents, ben tu peux dire bon, à 6h30 le matin, je veux que mes stores s'ouvrent et puis que mon éclairage s'allume à 25%, disons. Puis c'est facile, honnêtement, c'est pas des choses qui sont difficiles à faire. C'est très user-friendly.
Ça donne de la nouveauté à un agent manufacturier, hein? T'es capable d'aller voir un distributeur avec ça, puis j'imagine d'y faire une démonstration et automatiquement, bon, tu vas être capable de gagner la confiance du client. Moi, je voudrais savoir un peu, vous avez, bon, cette application-là que vous avez bâtie, vous avez acheté de l'inventaire au début de votre entreprise en 2009. Il y a beaucoup de coûts reliés à ce que vous faites pour être certain que vous arriviez à une certaine croissance. Parlant de croissance, comment qu'elle s'est passée? Est-ce que vous avez davantage opté pour une croissance organique ou en voyant ces coûts qui sont quand même significatifs, vous êtes allé chercher de l'investissement externe?
Oui. Jusqu'à maintenant, notre croissance a été purement organique. On n'a jamais eu d'investissement externe. Au début, je te dirais que la raison simple, c'est qu'il y a personne qui voulait investir en nous et puis notre plan d'affaires très risqué. Comme je te mentionnais au début, j'ai pris moi vraiment je me suis fait un commitment d'avoir une rigueur puis une discipline qui était aussi beaucoup liée aux finances de l'entreprise, aux liquidités de l'entreprise. Au début, on n'avait pas le droit à l'erreur et puis on a suivi de très très près les liquidités de l'entreprise. Et puis c'est une discipline que j'ai jamais lâchée au fil des années. On a une banque évidemment qui nous supporte avec une ligne de crédit qu'on utilise parfois pour supporter bon des build-up d'inventaire, supporter les comptes à recevoir de nos clients. Mais je te dirais que notre croissance a été financée là vraiment 100% là à l'interne organiquement par l'entreprise. Notre taux de croissance a été d'environ 20% par année en moyenne. Ok.
C'est excellent.
Et puis, fait que 20% par année, ça veut dire que tu doubles après 5 ans. C'est qu'est-ce qu'on se donne comme but aussi. Mais il y a eu des années que ça a été plus faible que ça. Et puis notre plus forte année, par contre, a été, je pense, comme à 47%, si je me trompe pas. Ok. Cette année-là, je vais t'avouer que ça a été, c'est quand on a été dans le gros ramp-up de cette croissance-là, on l'a senti plus serré sur la trésorerie. OK. Donc quand je regarde la croissance future potentielle, c'est sûr comme je t'ai dit, je suis un entrepreneur, je suis un vendeur, moi je crois toujours énormément que ma compagnie pourrait tripler l'année prochaine si on a le bon breakthrough pour lequel on travaille tout le temps à aller chercher. Fait que je garde toujours en tête le fait bon, qu'est-ce qui arrive si on a une immense opportunité là de croissance comme hyper rapide et puis je suis définitivement pas fermé au point d'aller chercher des investisseurs externes. Et puis je me suis aussi toujours garder la discipline de toujours garder un bon réseau d'investisseurs potentiels. Fait que j'ai jamais refusé un rendez-vous si quelqu'un, disons, de la FTQ ou d'Investissement Québec ou de la Caisse ou c'est d'une des banques qui m'appelle puis qui veut venir présenter leur service. Mais je prends toujours tous ces rendez-vous-là. On échange les cartes d'affaires. Je les garde dans mon réseau. Même que je suis toujours prête à même partager de l'information financière avec eux autres. Tu sais, les garder une relation, garder ce show un peu. Fait que si un jour on aurait besoin, je suis pas fermé à ça. Mais j'aime définitivement avoir sur un 20% de croissance par année, je pense définitivement que notre entreprise devrait être gérée d'une façon qu'on n'a pas besoin d'investissement externe. Et puis jusqu'à maintenant, on a réussi à le faire de cette façon-là.
C'est intéressant ce que tu dis parce que de garder des relations avec les banques, des investisseurs potentiels comme ça, c'est excessivement important parce que c'est quand tu n'as pas besoin d'argent que tu dois bâtir ces relations-là. C'est pas quand tu as besoin de l'argent. Parce que quand tu as besoin d'argent puis tu commences à bâtir ces relations-là, il est déjà trop tard. Les gens sentent que tu es désespéré, sentent qu'il y a un rapport de force avec toi, puis automatiquement, ils vont peut-être s'en sortir avec une meilleure transaction. Fait que je pense que c'est une bonne vision que tu as. Puis, moi, j'aimerais ça, si on pouvait discuter un petit peu ensemble du marché américain. On avait des discussions il y a quelques semaines de ça, toi et moi ensemble, où est-ce que tu me disais qu'à l'heure actuelle, je crois, et corrige-moi si je me trompe, bien entendu, que le marché américain représente peut-être à peu près 25% de votre chiffre d'affaires. Donc, vous commencez à avoir une pénétration intéressante. Vous avez d'ailleurs un bureau également aux États-Unis. Comment que ça se fait, la commercialisation aux States? Nous, je reviens un petit peu avec les... Avec mon agence, on voit clairement que la commercialisation aux États-Unis est différente de la commercialisation au Canada. Est-ce que c'est la même chose dans une industrie comme la vôtre ou est-ce que vous allez travailler beaucoup avec des agents manufacturiers et des distributeurs?
Oui, absolument. Il y a des différences dans plusieurs des différents marchés dans lesquels on prend part. Fait qu'il y a définitivement une certaine nuance sur la façon qu'on fait affaire qui est différent au Canada et aux États-Unis. Je te dirais qu'il y a aussi des grandes différences à l'intérieur du pays même. Fait que, tu sais, les tendances qu'on va voir, par exemple, en Floride, peuvent être extrêmement différentes des tendances qu'on va voir, disons, tu sais, au Ohio ou, tu sais, dans le milieu du pays. Donc, il y a beaucoup de tendances régionales à garder en tête quand on développe nos stratégies de commercialisation. Mais si j'y prends à l'intérieur des États-Unis, je me dirais que la plus grosse chose qu'on essaie d'accomplir, qu'on fait affaire avec eux aux États-Unis, c'est d'avoir aucune différence comme d'un joueur local en voulant dire sur le processus d'affaires. Fait que le fait qu'ils puissent faire affaire avec nous à 100% comme si on était un fournisseur américain et non comme un fournisseur à l'étranger. Nous autres ici au Canada, c'est très commun pour nous de faire affaire avec des fournisseurs américains. C'est 10 fois... c'est la plus grande économie au monde, sont juste l'autre bord de la frontière. Fait que pour nous autres, c'est très, très normal. Pour eux autres, c'est une économie, les Américains, qui est très self-sustainable. Fait qu'ils sont pas aussi habitués de faire affaire avec des fournisseurs de d'autres pays. Fait qu'on essaie d'enlever ce stigma-là. Fait que d'avoir un bureau aux États-Unis, nous autres, ça nous a vraiment permis de pouvoir livrer les commandes, tu sais, à partir d'une adresse américaine. Il n'y a pas de douane à franchir. Ça nous permet d'avoir une adresse américaine où qu'ils puissent envoyer, tu sais, leur chèque, disons, les paiements et puis tout ça. On a une banque américaine à partir de où qu'on paye, tu sais, la commission de nos agents américains. Fait que beaucoup de petits détails comme ça, où est-ce que c'est un grand avantage pour nous d'avoir notre emprunt aux États-Unis.
Fait combien de temps maintenant que vous avez votre bureau aux States?
Fait que notre bureau aux États-Unis, fait que nous autres, Dallas USA, c'est vraiment comme une entité séparée. Ça fait environ 3 ou 4 ans qu'on a cette entité-là, Dallas USA. Je te dirais peut-être 3 ans depuis qu'on a l'entité Dallas USA aux États-Unis. Avant ça, comment qu'on a commencé là-bas, c'est qu'on avait un genre de 3PL. Fait qu'une petite entreprise en Floride, qui était, disons, un ami de notre agent manufacturier là-bas. Notre agent manufacturier avait un bon succès à vendre nos produits. Il nous a dit, tu sais, moi, je pourrais faire encore mieux si vous gardiez un stock ici en Floride. Fait qu'on a fait une entente avec une petite entreprise du coin pour mettre, bon, je sais pas, 50 000 $ d'inventaire sur les tablettes que lui allait nous aider à expédier qu'on avait des commandes. Là, au fil des années, bon, on a commencé à profiter de cet emplacement-là de plus en plus. Puis notre deal, si tu veux, avec ce 3PL-là, il y a de plus en plus d'ampleur. Puis, je te dirais ça, il y a environ 3 ans, ce monsieur-là qui était propriétaire de cette entreprise-là, il a décidé de prendre sa retraite puis de pas renouveler son bail. Fait que là, on s'est retrouvé sans emplacement. Puis là, notre business aux États-Unis avait pris une certaine croissance. Puis c'est là qu'on a décidé de faire le move, de vraiment, tu sais, incorporer notre propre business aux États-Unis. On a repris le même local où est-ce que lui était. Puis on l'a pris, tu sais, à nous autres là, à 100%. Quand on a commencé là, on prenait 10% de l'espace. Là, du jour au lendemain, on se retrouve avec 100% de l'espace. On a réussi à embaucher vraiment un bon gestionnaire, un bon gérant de l'entrepôt là-bas qui a été vraiment, tu sais, sans lui, on n'aurait pas pu le faire. Fait qu'on est tombé vraiment sur la bonne personne. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé. Fait qu'on était là, ça fait 3 ans officiellement, mais avant ça, on était là en 3PL pendant un autre 2-3 ans aussi avant ça.
Ben, c'est intéressant, les 3PL. J'ai beaucoup de gens avec qui on travaille qui vont fonctionner comme ça, mais à un certain point, il y a un enjeu de dépendance. Tu l'as vécu peut-être à la dure. Je sais pas exactement à quel point que ça a été un enjeu, mais lui, si demain matin, il ne veut plus avoir un entrepôt pour des raisons personnelles, ben toi, tu te retrouves avec pas grand-chose, tu sais. Donc, c'est certain que ça peut avoir des avantages comme des inconvénients assez rapidement si, bien entendu, la personne a des plans futurs. Tu as parlé d'entrepôt. On enregistre le podcast aujourd'hui, 30 septembre 2020. Bon, on a l'air de retourner tranquillement en confinement, ou du moins, je ne le souhaite pas, mais il y a l'air d'avoir des mesures, des nouvelles mesures qui ont été établies au Québec par rapport à ce qui se passe. Donc, dans une optique que vous avez un entrepôt, vous avez des produits à livrer, vous pouvez pas être une organisation 100% télétravail. Vous devez manipuler les produits, vous devez continuer à opérer. Comment s'est passé vos derniers mois suite à ce qui a pu se dérouler dans le monde avec la COVID-19?
Ouais, ben ça l'a été... Encore aujourd'hui, c'est vraiment un grand enjeu pour nous autres, la gestion de notre équipe, de nos ressources à l'interne, et puis vraiment là de s'assurer de la sécurité de tout le monde. Je prends beaucoup ça à cœur. Je sens une énorme responsabilité là de balancer la continuation là de l'entreprise, et puis de bien s'occuper de nos clients sans le moins d'inconvénients possible pour eux, mais en même temps de m'assurer de la sécurité là de nos employés. Fait qu'on, nous autres, on a eu la chance de continuer d'être quand même assez occupés. Ok, c'est une bonne nouvelle là. On est très, tu sais, reconnaissants et puis chanceux. On a aussi une excellente équipe qui ont montré là un caractère extraordinaire et puis une agilité extraordinaire de leur côté. Je te dirais que dans les premiers jours là, le 12-13 mars, on a pris ça très très au sérieux dès le début. Je pense que tout le monde l'a pris très au sérieux. On n'est pas tout seul dans ça. Et puis même avant que le Québec annonce leurs intentions de fermer certaines entreprises, nous autres, on a pris la décision à l'interne de renvoyer le plus de gens travailler à partir de la maison possible. Donc, il fait qu'on a pris cette décision-là très, très tôt, puis on l'a pris très fermement, jusqu'au point que les gens nous questionnaient un peu, disant « Oh, c'est un petit peu extrême votre point de vue, mais je suis fier qu'on l'ait fait tôt, cette décision-là. » Puis toutes les fonctions... On a réussi à maintenir toutes les fonctions de bureau à distance, donc vente, développement de produits, service à la clientèle, comptabilité. Et puis, on s'est gardé une très petite équipe squelette, si tu veux, qui travaillait dans le bureau, dans nos bureaux à Blainville. Après ça, dans l'entrepôt, on a quand même un grand entrepôt qui est bien aéré, fait que les gens travaillent pas très proches un de l'autre. Donc, on a aussi réduit le plus qu'on pouvait dans les premières journées le nombre de personnes qui travaillaient dans l'entrepôt. Fait qu'on leur a dit vraiment, tu sais, le minimum de personnes possible juste pour qu'on puisse expédier les commandes de la journée. Une fois que les commandes sont expédiées, on passe le balai puis on s'en va. Pas besoin de rester jusqu'à la fin de la journée s'il y a pas de travail. Fait qu'on a réduit le plus possible le nombre de personnes qu'on avait en pouvant faire ça. Mais là, au fil du temps, la business a commencé de plus en plus occupée. Et puis, il a fallu qu'on ramène des personnes. Et puis, fait que ça a été quand même toute une gymnastique. Les gens aussi, à la maison, ils ont des enfants qui restent à la maison, mais je l'ai vécu moi aussi. Fait que ça a été toute une gymnastique pour les gens personnellement de vivre ça. Il a fallu qu'on soit très, très flexible. Et puis aussi, on a investi, tu sais, au maximum dans tout ce qui est le matériel de sécurité, les partitions dans le bureau et puis tout ça. Fait que là, je te dirais que, tu sais, au printemps puis pendant l'été, on est revenu là presque à notre capacité maximale, mais avec beaucoup de nouvelles, tu sais, normes là, de distanciation sociale et puis de sécurité là, de processus de sécurité à l'interne. Et puis là, ben dans le dernier mois, il a fallu qu'on reprenne des pas par en arrière qu'on anticipait. Donc là, on est tourner en télétravail au maximum, ou tu sais, on veut garder au moins que 50% des gens définitivement. Et puis en même temps, tu sais, on c'est tout ce qui est le port du masque et tout ça. Fait que l'équipe s'adapte très bien, mais je te dirais que ça a été un grand enjeu à régler. Et puis je suis très fier de l'équipe qu'on a bâtie au fil des années. Puis cette année, ils m'ont impressionné là, comme jamais là. C'est fait qu'on, je pense que je dois tout le crédit à notre équipe là sur ce point là.
Content d'entendre ça, c'est bien parce que bon, il y en a qui ont eu pas nécessairement la même chance. Hein. Leur industrie, leur organisation a été durement impactée. Je suis content de voir que pour vous, globalement, les choses se sont bien passées. Puis là, bon, c'est sûr que le futur a plusieurs incertitudes avec ce qui se passe, mais es-tu capable quand même d'avoir une bonne vision ou est-ce que tu voudrais amener l'organisation sur les 3, 4, 5 prochaines années?
Oui, absolument. Fait que, ben, premièrement, je pense que c'est la caractéristique comme principale que je veux qu'on garde, une des valeurs principales, c'est vraiment qu'est-ce qui est au niveau de l'agilité. En fait, je pense qu'il y a tellement d'inconnus, je pense qu'il y a vraiment personne, tu sais, qui est capable de prédire exactement comment ça va se dérouler au fil, tu sais, de la prochaine année, des prochaines années, puis tout ça. Je pense qu'on voit certaines tendances se dessiner, on peut regarder certaines tendances du passé puis d'essayer de les appliquer au futur, mais je pense qu'il reste encore beaucoup d'inconnus. Fait que d'être prête à réagir, c'est n'importe quoi, je pense que c'est vraiment important. Fait que garder de l'agilité, c'est quelque chose que je m'assure dans toutes les décisions qu'on prend, que ça, tu sais, qu'on a toujours la possibilité de s'adapter. Par contre, je te dirais que je continue à viser le 20% de croissance annuelle. Je pense que ça peut être, c'est beaucoup plus certaines années, puis peut-être un petit peu plus difficile d'autres années. Fait que c'est peut-être pas stable sur 5 ans comme ça, mais je te dirais que définitivement de redoubler l'entreprise encore d'ici 5 ans, c'est un but que je pense envers lequel on est très aligné. Et puis pour moi, ça passe beaucoup par l'innovation du produit, d'où l'éclairage intelligent. Fait que je pense que ça, c'est des tendances qu'on discutait beaucoup avant le COVID. Ça l'a pas changé. Dans certains points, même, ça s'accélère. Donc, je pense que la vision reste de telle.
Intéressant. Petite question personnelle, Joey. Es-tu un lecteur? Est-ce que t'aimes lire des livres d'affaires?
J'aime beaucoup lire des livres d'affaires, oui. Je suis un lecteur de livres et puis j'aime aussi beaucoup les audiobooks. Fait que je fais beaucoup de routes à chaque jour, environ, disons, 1h30 à 2 heures totale par jour. Fait que y a des livres que je lis comme en livre, mais aussi dans l'auto, j'écoute beaucoup de livres.
Un livre qui t'a marqué, mettons, dans les 12 derniers mois?
Bonne question. Je te dirais que le dernier livre que j'ai lu, c'est la biographie de Bob Iger, le CEO de Disney. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Ce livre-là, je l'ai acheté, ça fait environ un an, quand il est sorti, ouais. Je pense, en fin 2019, puis je l'avais comme dans mon queue de livres. Et puis, j'étais pas nécessairement attiré envers, parce que j'aime beaucoup les histoires d'entrepreneurs, OK? Puis Bob Iger, c'est pas particulièrement un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a vraiment commencé là, tu sais, chez ABC Sports, puis qui a grandi dans la famille, tu sais, ABC, puis Disney après ça. Finalement, tu sais, j'ai dit, OK, je vais le lire, puis je l'ai absolument adoré, là. Ça a été une de mes biographies, là, une des grandes biographies que j'ai lues, je l'ai beaucoup aimé. Fait que la biographie de Bob Iger, j'ai oublié le nom, il y a un titre très particulier, j'ai oublié le titre, là.
Ouais. Le service, hein, tout est dans le service Disney. C'est les petits détails qui font toute la différence à la fin de la journée. Et bon, j'imagine que j'ai pas lu le livre. Je pense que je vais le mettre dans ma bucket list parce que je l'avais vu également. Mais non, c'est ça. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de sujets reliés au service à la clientèle, aux petits détails qui font toute la différence dans l'expérience client. Donc, je pense que je vais mettre ça sur ma bucket list. Et là, bon, ce que je comprends, tu fais beaucoup de voitures. Tu dois écouter peut-être de la musique dans ta voiture, mais peut-être des podcasts. Qu'est-ce qui joue présentement, si d'ailleurs, bien entendu, tu écoutes des podcasts?
Oui, j'aime beaucoup écouter les podcasts. Fait que le dernier que j'ai écouté, c'est le tien.
Oh!
Hyper croissance. j'ai écouté l'épisode avec Luc Filiatro que j'ai trouvé très intéressant. Fait que j'ai essayé d'en apprendre un petit peu plus sur ton podcast avant d'y participer moi-même. Fait que j'ai trouvé ça très, très inspirant. Fait que merci pour le travail que tu fais. J'aime beaucoup le podcast de Tim Ferriss. Évidemment, je suis pas tout seul, là, il est très populaire. J'aime beaucoup l'aspect où est-ce qu'il parle des habitudes et puis des routines des gens, tu sais, des high performing individuals, pas nécessairement seulement dans les mondes des affaires, mais dans le sport et puis dans le monde là, tu sais, des acteurs et puis des politiciens et puis des, tu sais, fait qu'il entrevue toutes sortes de différentes personnes. Fait que je te dirais que la dernière épisode que j'ai écouté de Tim Ferriss, peut-être la semaine dernière, c'est celui avec Guy Raz. Qui, c'est How I Built This, là, qui a son propre podcast, lui aussi, sur NPR, qui est aussi un bon podcast. Incroyable que j'ai écouté un petit peu moins. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce podcast-là avec Guy Raz, ça va probablement être le prochain livre que je vais lire. Là, c'est celui qui vient de lancer.
Ouais, il y a un podcast qui est complètement incroyable. Puis tu le dis, Tim Ferriss, oui, il aborde souvent des points de routine pour les gens qui sont des high performers. En as-tu des routines? Est-ce que tu as des routines matinales? As-tu des routines pendant que tu travailles, après le travail? Est-ce qu'il y a une structure que tu suis?
J'essaie de garder là certaines disciplines. Généralement, j'aime encore ça aller au bureau à chaque jour. Je sais que le télétravail devient de plus en plus populaire et puis je le fais une fois de temps en temps, mais généralement, j'aime être au bureau. J'aime arriver au bureau vers 8h30. Ça me donne la chance de passer un petit peu de temps avec mes enfants avant qu'ils aient à l'école. Arriver au bureau à 8h30, qui est l'heure que la plupart des autres employés commencent. Fait que ça montre l'exemple que je suis là en même temps qu'eux. En même temps, on a notre daily huddle, fait qu'à chaque jour, sans exception, on fait un huddle avec tous les employés, toute l'équipe de gestion ensemble, fait qu'on est comme 8, et puis on fait un huddle à chaque jour. Maintenant, on le fait sur Zoom, là, depuis la COVID, pour éviter les rencontres en personne, mais on fait ça chaque jour à 9h, ça dure environ 10-15 minutes, fait que c'est un gros... Puis dans ce huddle-là, on parle de, bon, tu sais, la bonne nouvelle, la priorité de la journée, si on a quelque chose qui nous arrête. Et puis, ça fait que c'est une très, très belle façon de commencer ma journée. Ça me donne beaucoup de clarité sur qu'est-ce que je vais faire pendant ma journée. J'aime beaucoup ça, m'entraîner au dîner. J'aime ça. Ça fait presque 10 ans que je fais ça. Je fais beaucoup de courses extérieures. Fait que je vais bien faire de la course ou je vais aller faire, tu sais, je vais aller au gym ou je vais aller à un genre de CrossFit ou quelque chose comme ça. Fait que j'aime m'entraîner au dîner. Ça fait définitivement partie de ma routine. Ça fait du bien. Ça brise la journée en deux aussi. Et puis, comme je mentionnais, j'écoute des livres ou des podcasts dans la voiture ou si j'ai besoin d'avoir des appels un peu plus, c'est long. Là, disons, faut que je parle à quelqu'un pour une demi-heure sur un sujet stratégique ou quoi que ce soit. Je peux prendre le temps de la voiture pour faire ça. Puis une fois que j'arrive à la maison, j'essaye, OK, de fermer mon téléphone ou de ranger mon téléphone à partir de 6h. J'aime ça arriver à la maison vers 6h pour le souper avec mes enfants et puis de ranger mon téléphone et puis de pas le réouvrir jusqu'à peut-être plus tard dans la soirée. Là, je vais pouvoir repasser à travers mes courriels peut-être plus tard là, dans la soirée. Mais j'aime ça essayer de passer du temps avec ma famille là, sans les distractions. Je peux pas dire que je réussis à chaque soir, mais c'est quelque chose, c'est la routine pour laquelle je vise, là, surtout dans les jours de semaine.
Très intéressant. Très intéressant. Joey Catry, merci énormément de ton temps aujourd'hui. C'était une discussion fascinante, autant sur ton parcours que l'industrie dans laquelle tu navigues. Je trouve que c'est une industrie qui est très à regarder parce qu'elle est en croissance, est en émergence constante. Et bien, pour en apprendre peut-être un petit peu plus sur toi, Dolls Lighting, est-ce que peut-être même vous avez des postes d'ouvert en ce moment? Comment qu'on apprend un peu plus? Site web, médias sociaux, ça serait où l'endroit le plus facile où aller?
Oui, absolument. Fait que premièrement, pour moi en particulier, si jamais il y a quelqu'un qui voudrait me contacter, je suis facile à rejoindre surtout par courriel. Fait que joey@dalls.com. Fait que c'est quand même assez simple. Après ça, notre compagnie, sur notre site web, en effet, on a beaucoup d'informations sur la compagnie, sur notre implication sociale, sur les postes d'ouvert. Fait que dalls.com, encore une fois. Et puis sur tous les réseaux sociaux, on partage beaucoup d'informations sur la compagnie, sur nos produits, des photos d'inspiration. Fait que vraiment, on est facile à trouver là, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, puis aussi plusieurs vidéos sur YouTube à propos des produits intelligents comme tu venais de mentionner.
Merveilleux, merveilleux. Merci encore une fois, Joey. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Pour être très honnête avec vous, je me sentais comme un étudiant à l'école quand Joey me parlait de la construction de ses réseaux de distribution. C'est une manière de faire du développement d'affaires que je n'avais jamais eu la chance de discuter dans le passé. Et force est d'admettre que l'équipe de Dulce Lighting sait comment développer ce segment. Également, j'ai grandement aimé la vision que Joey porte sur sa croissance. Il tente de maintenir une évolution de 20% par année, ce qui est excessivement brillant, sachant que grandir trop vite peut des fois créer plus d'enjeux que prévu. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agang@j7media.com. Donc, A-G-A-G-N-E, à commercial, J, le chiffre 7, media, au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée et vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.